Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre le journal du studio Kalangou qui vous est présenté par Hawa Maman. Attaque hier du village de Carré 2 dans la région de Maradi, bilan, du bétail emporté et un véhicule des FDS incendié lors des échanges de tirs. Le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a animé hier un point de presse après une mission à Walam dans la région de Tillabéri. Il est relatif à la situation des déplacés internes venus de Chinagoder. La partie magazine de ce journal s'intéresse au concept de l'esclavage moderne. Les contours dans un instant avec Souheba Ibrahim et les juristes pénalistes. Le village de Carré 2, frontière Nigeria, dans la commune de Dain-Issa, région de Maradi, a été attaqué hier par des individus armés. Les assaillants ont emporté du bétail et un véhicule des forces de défense et de sécurité a pris feu pendant des échanges de tirs. Des précisions avec Aboubakar Malam Salha, vice-maire de la commune de Dain-Issa, qui s'est rendu sur les lieux ce matin. Il fait le point au téléphone de Mohamed Maman.
C'est aux environs de minuit, ce sont des bandits qui sont venus pour emporter des animaux. Donc plusieurs têtes ont été emportées. Mais maintenant, suite à l'intervention de nos FDS, vraiment, les hommes sont dit là-bas aux environs des villages de Sangaro.
Ils ont brûlé le véhicule des FDS.
Oui, c'est surtout aux échanges de coups de feu que le véhicule de la police a été incendié. Nos éléments ont déjà pris position. C'était le premier souvenir pour les attentes. Comme vous savez que un passage obligatoire où ils vont conduire les animaux. Raison pour laquelle les ont précédés.
Il y a eu des blessés?
Non, pas de blessés.
Donc c'était des gens lourdement armés?
Ah, ils sont lourdement armés. C'était un nombre important. On ne sait pas des armés. Vraiment, c'est là où nous remercions Dieu de nous avoir quand même donné ces éléments-là qui travaillent jour et nuit pour que cette population-là soit sécurisée.
La fermeture forcée des écoles pour cause d'insécurité est une tragédie qui va au-delà de l'humanitaire, a déclaré Filippo Grandi, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. C'était hier à Niamey, après sa mission dans le département de Walam, région de Tillabéri, où il a rencontré les déplacés internes venus de Chinagoder à la frontière du Mali. Filippo Grandi au micro d'Adama Dawaki.
Les déplacés, ils nous ont parlé de 137 écoles dans leur région fermées récemment à cause de ce conflit. La fermeture forcée des écoles est une tragédie qui va au-delà de l'humanitaire parce que vous privez une génération d'enfants d'un droit fondamental qui est celui de l'éducation. Et en plus, vous le faites dans une situation où la radicalisation est possible. Et vous savez, la radicalisation se nourrit du manque d'éducation. Je suis très inquiet de cela. Déjà, le Niger a un déficit dans le domaine de l'éducation que le développement est en train d'essayer de combler. Et là, c'est un pas en arrière. Et l'approche d'urgence la meilleure, c'est pas de créer des systèmes parallèles, des camps, tout cela n'est pas soutenable, mais c'est de faire en sorte que ces gens puissent avoir accès au système national d'éducation, mais en même temps renforcer ce système pour qu'ils puissent absorber plus d'élèves. Et c'est l'approche que le Niger soutient, c'est plus à long terme. Il faut que l'aide internationale renforce les systèmes nationaux du Niger.
À Agadez, hier, les membres du comité régional de paix ont fait des propositions pour améliorer la situation socio-économique et sécuritaire de la région. À cet effet, les membres de ce comité ont appelé l'État à occuper les jeunes par la réouverture du site aurifère du Djado, la reconversion des ex-passeurs des migrants, l'actualisation des accords de paix entre le gouvernement et l'ex-résistance armée. Écoutons le conseiller Alousseni Bangalawan sur des propos recueillis par Anissé Karim.
Les membres du comité régional de paix de la région d'Agadez réaffirment leur entière disponibilité et engagement à apporter leur contribution dans les efforts des autorités nationales locales et des amis du Niger dans la stabilisation de la paix et la lutte contre toute forme d'insécurité. Invite les plus hautes autorités du pays à prendre des mesures tendant à la création des opportunités d'emploi aux jeunes Nigériens en général et ceux de la région d'Agadez en particulier à travers la réouverture du site aurifère de Djado, les renforcements déploiement du plan de reconversion des ex-prestataires de l'économie migratoire, ainsi que de véritables actions de réinsertion des jeunes dans le tissu économique et d'actualisation des accords de paix entre l'ex-résistance armée et le gouvernement du Niger, à savoir le recrutement périodique des jeunes de la région dans les corps militaires et paramilitaires. Invite tous les citoyens à plus de vigilance en évitant tout amalgame à l'endroit de certaines communautés en vue de préserver la cohésion sociale de toutes ces couches.
À Agadez, les 404 demandeurs d'asile interpellés le mois dernier après l'incendie de leur centre d'accueil sont passés devant le procureur qui a relaxé ce matin 190 parmi eux. Par ailleurs, selon notre correspondant, le procureur Seyni Seydou a mis à la disposition du juge 20 mineurs. Il a déféré en prison 21 personnes, dont une femme, tous poursuivis pour attroupement sur la voie publique, rébellion et destruction des maisons par incendie. Enfin, 173 autres prévenus sont poursuivis pour attroupement sur la voie publique et rébellion. Leur procès est fixé pour la semaine prochaine. Hier, face à la presse à Niamey, le ministre des Enseignements supérieurs a démontré à sa façon que la grève d'un mois déclenchée par les enseignants des universités publiques du Niger était injustifiée. Le ministre Yahouza Sadissou a martelé que ces enseignants n'ont aucun arriéré de salaire. Les arriérés impayés concernent les droits statutaires de 2019 au profit des enseignants des universités de Niamey, Agadez et Tawa et ils seront épongés entre février et mars de cette année. Écoutons le ministre sur des propos recueillis par la télévision Labari.
Le SNEX ne réclame pas des arriérés de salaire parce que malgré tout, nous n'avons aucun arriéré de salaire dans aucune université. Toutes les revendications tournent autour des arriérés des droits statutaires. Et même là, je voudrais lever une équivoque. Nous n'avons aucun arriéré de 2016, même pas de 2017 ou de 2018. Mais nous avons par contre des arriérés de 2019. J'ai écrit à tous les recteurs pour me faire la situation précise des arriérés des droits statutaires. Les universités de Maradi, de Zender, de Diffa, de Dosso, de Tillabéri, au 31 décembre 2019, n'ont aucun arriéré de droit statutaire. Par contre, à Niamey, nous avons 819 321 324 francs CFA d'arriéré de droit statutaire. À Tawa, nous avons 5 238 363. À Agadez, 29 975 261.
Pour le syndicat national des enseignants chercheurs et chercheurs du supérieur, la sortie médiatique hier du ministre des Enseignements supérieurs est un non-événement. Les enseignants chercheurs entendent poursuivre la grève d'un mois entamée le 20 janvier dans toutes les universités publiques du Niger, a déclaré le secrétaire général du SNEX, Nabala Adaré, interrogé par Nafisa Adamou.
Sa sortie d'hier, c'est une sortie truffée de contradictions. Au début, il dit « le gouvernement ne va jamais négocier ». À la conclusion, il dit « le gouvernement va négocier ». Par rapport au droit statutaire, il n'a aucun arrêt, c'est faux. Le compte rendu est là, de la rencontre du 24 de ce mois. Les arriérés antérieurs à 2019, l'État ne les a pas honorés à Niamey, à Tawa et à Agadez. Et ensuite, d'autres droits statutaires se sont ajoutés relativement à l'année 2019. Et ensuite, il a fait allusion à un certain nombre de désavantages. C'est des avantages qui existent dans toutes les universités du monde. C'est lié à la fonction de l'enseignant-chercheur qui est distribué en mission de recherche et en mission de transmission des savoirs. Et tous les fonctionnaires de l'État, en fonction du service qu'ils rendent à l'État, ont presque les mêmes avantages. Seulement, c'est une différence de degré. Je pense que l'opinion nationale n'est pas au courant. Donc, pour nous, la grève continue.
Le bras de fer entre le syndicat national des enseignants-chercheurs et le gouvernement est qualifié de sec par le représentant du syndicat étudiant très inquiet car cela risque de plonger les universités publiques du Niger dans un dysfonctionnement comme celui de l'année dernière. Algabit Mahamadou Ider, secrétaire général du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, au micro de Tavnan Foudey Ahmed.
Aujourd'hui, les IPN sont dans un dysfonctionnement qui ne dit pas son nom et ceux qui payeront les pots cassés, comme on l'a dit, seront effectivement les étudiants nigériens. Et nous, en tant que responsables syndicaux de ces derniers, nous avons déjà rencontré la partie gouvernementale et hier, nous avons rencontré les enseignants-chercheurs. Nous avons constaté qu'ici, à travers nos investigations, que le gouvernement, en tout cas, n'a pas honoré son engagement, il faut le dire. Et voilà pourquoi le SNEX est revenu à la charge. Mais nous, notre vœu le plus ardent, c'est que cette situation ne perdure pas comme l'année passée et que les cours reprennent le plus plutôt.
Après la rencontre avec les deux parties, est-ce qu'aujourd'hui on peut garder l'espoir que tout sera en ordre dans peu de temps?
Le bras de fer est sec, il faut le dire. L'année passée, on a perdu 4 mois pour rien. Aujourd'hui, le cycle se reprend. Nous avons peur que nos IPN connaissent encore un nouvel épisode de dysfonctionnement, un nouvel épisode de vacation des salles et des cours.
Les étudiants en master à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC de Niamey qui espèrent bénéficier de la bourse de l'État ont été suspendus des cours la semaine dernière. L'administration de cet institut qui leur a permis de reprendre les cours cette semaine cherche à clarifier leur situation car déposer une demande de bourse ne veut pas dire que cette bourse sera de facto octroyée. Écoutons à ce sujet le coordinateur des masters à l'IFTIC, Adam Mourabiou, interrogé par Moussa Hassan.
Effectivement, la semaine passée, il y avait cette question de suspension, mais hier et avant-hier, ils ont eu à faire cours parce qu'on a pu intervenir pour permettre à ces étudiants potentiels boursiers de prendre cours avec les autres. Ce sont des étudiants qui ont déposé leur dossier au niveau de l'ANAP pour prétendre à une bourse pour continuer leurs études. On a des étudiants boursiers à qui on ne peut pas empêcher quand même de prendre cours. Moi, je les ai reçus. Ils ont été reçus par la SIG. Mais jusque-là, des discussions n'ont pas été faites pour que leur situation soit prise en compte. Il y a quelques années, nous demandons à ces étudiants potentiels boursiers de s'inscrire moyennant 100 000 francs d'avance frais de scolarité. Et ces 100 000 francs vont leur être restitués quand l'ANAP va payer leurs frais de scolarité. Pour cette année, on ne s'est pas entendu avec l'administration sur quels sont prendre en attendant. Et nous allons considérer ces étudiants comme des étudiants privés. L'année passée, on a pris une quarantaine. Et en fin de compte, il y a ceux qui n'ont pas eu la bourse. Et ils sont dans des difficultés pour payer la première année passée et la deuxième année qui vient de commencer.
Tous les jours, écoutez les programmes du studio Kalangou sur les ondes de nos radios partenaires.
Et sur WhatsApp au 80 06 88 54 à partir de 17h.
N'oubliez pas nos rendez-vous hebdomadaires.
Lundi, nous abordons une question de droit dans la partie magazine.
Mardi, suivez le magazine Bien-être à la fin des journaux et le forum Espace Femmes à 18h15.
Ne manquez pas le forum de la presse du vendredi pour le décryptage de l'actualité de la semaine.
Samedi et dimanche, place à l'actu des jeunes à partir de 17h, suivi de Tous à la Fada. Et
Studio Kalangou, au rythme du Niger.
La partie magazine au Niger, parler de la traite des personnes revient à parler d'esclavage moderne, a déclaré Souheba Ibrahim, juriste pénaliste et aussi chef de projet au Centre d'analyse géostratégique, Géoanalytique Center. Interviewée par Olivier Asukbavi, elle revient sur la définition du concept de la traite des personnes.
Quelle est la différence entre l'esclavage moderne et la traite des personnes?
C'est la même chose. Ce n'est que deux vocables qui sont utilisés d'un pays à un autre. Mais si on prend le contexte nigérien, la loi a retenu le vocable traite de personnes. La traite de personnes n'a pas commencé tout de suite. Depuis la nuit des temps, les sociétés ont utilisé des personnes. Et nous savons, l'exemple le plus frappant, c'est l'esclavage. Et pourquoi c'était palpable en ce moment? Parce qu'on pouvait vendre publiquement quelqu'un. Et maintenant, nous sommes dans une société qui a évolué, il y a des droits de l'homme qui sont érigés, il y a des textes qui ont été adoptés. Du coup, les gens ne peuvent pas faire ça aussi ouvertement. On peut dire que c'est devenu clandestin, mais on peut aussi dire que les trafiquants, ils s'adaptent au changement social. Ils s'adaptent à la réaction de l'État.
Là, on parle des victimes et on parle aussi des gens qui mettent ces victimes-là en jeu. Alors, souvent, quel est le profil des victimes et quel est le profil des trafiquants?
La traite de personnes, c'est une activité criminelle qui consiste à utiliser des gens comme des marchandises. Et du coup, il y a une certaine tendance à utiliser des gens qui sont vulnérables. Du point de vue des victimes, les victimes les plus vulnérables, ce sont par exemple les enfants. Là, on assiste à la mendicité des enfants que les grandes personnes utilisent pour avoir une entrée d'argent. Comme personnes vulnérables, on peut aussi voir les femmes. Il y a aussi les personnes qui vivent avec un handicap ou bien les personnes qui sont en situation de réfugiés, exilés et tout ça. Parce que ce sont des personnes qui sont dans une situation qui ne leur permettent pas d'avoir une protection assez complète comme les autres. Ouais. Du point de vue des trafiquants, on peut dire qu'il y a deux grandes catégories de trafiquants. Il y a des trafiquants qui sont dans un réseau assez sophistiqué, qui ont déjà une sorte de société de crime.
Alors, au Niger, précisément, qui peut-on considérer comme trafiquant dans ce sens-là?
Au Niger, c'est là où les gens ne comprennent pas trop. En général, pratiquement presque tous les Nigériens sont des trafiquants qui s'ignorent. L'infraction de traite des personnes, beaucoup de gens la commettent sans le savoir.
Un exemple?
Oui, vous allez voir des gens qui utilisent des domestiques. Déjà, quand vous utilisez un domestique, c'est un contrat de travail. Normalement, vous ne devrez pas payer les domestiques en deçà du SMIC. En plus, vous devrez donner des jours de congé, des jours fériés. Tout ça, c'est des choses que les gens ne respectent pas dans ce pays-là. Et du coup, on peut assimiler le travail domestique à de la traite des personnes. Seulement que les gens, les trafiquants et les victimes ne se rendent même pas compte qu'il s'agit en réalité de cas de traite des personnes dans ce pays.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.